Bon vendredi tout le monde, je m'appelle Jeff Blanchette, je suis avec vous pour les 4 prochaines heures. Éric Duhem est en vacances pour une dernière journée en Martinique, il en profite pleinement. Il manque le beau givre à l'extérieur.
Ah, c'est plate, hein?
Les arbres couverts de givre.
On parlait de neige érotique en début de semaine.
Comment?
De neige érotique.
Pour vrai?
Oui, on a parlé de neige érotique.
Et ça va craquer aujourd'hui,
oui,
Julie.
Oui, c'est
hein?
Ça, ça va être difficile.
On se demandait si t'allais être là, la voix va tenir.
Ouais,
inquiète-toi pas.
Ça va être correct.
Alors, ce matin, on pourrait dire qu'on a un givre pornographique.
Bon, ça demande des explications.
Un verglas sexuel.
Je suis pas sûr.
Ben écoute, c'est pas mon proverbe de toute façon, la neige érotique. Ça appartient à quelqu'un d'autre.
Oui, c'est ça. On se l'est approprié.
Tout ça pour dire à quel point c'est beau.
D'accord.
À quel point c'est beau.
C'est poétique.
Ah,
vous êtes-vous remis de District 31? Je m'adresse à
non.
Julie et Paul Raphaël parce que...
En fait...
Moi, je le regarde pas. Je suis pas fier de pas le regarder, vous comprenez, là? Mais je peux pas vous dire, hey, je suis vraiment au courant de ce qui se passe. Je sais qu'il y a un gros buzz. Je me suis levé ce matin, j'ai regardé Facebook, Twitter. Tout le monde criait que Luc Dionne, c'est un génie. Mais je veux pas brûler de punch non plus parce qu'on n'est pas de même. Mais êtes-vous satisfait de cet épisode qui était attendu?
C'est rare qu'un trailer comme ça, une série comme ça, se termine sans qu'il y ait comme une autre intrigue qui commence à la fin de l'épisode pour nous garder en haleine. Hier, c'était vraiment un dénouement parfait. La saga, là, l'espèce de suspense qui nous tient en haleine depuis quand même plusieurs semaines, c'est vraiment complètement dénoué. Puis la dernière scène, je vends pas de punch en disant ça, c'est les trois policiers, les trois enquêteurs dans un poste de police sombre parce que c'est le soir, le chiffre est fini, il y a de l'air d'être genre 9h le soir. Puis là, ils partagent une petite bière puis ils se disent juste comme « Hey, good job, on est fiers de nous ».
Puis toi, comme téléspectateur, tu pensais comme eux.
Je te jure, mon gars, quand ça s'est terminé puis que le générique est parti, je me suis levé debout devant ma TV puis j'ai fait un salut de théâtre.
Ben voyons.
Bravo, bravo.
C'est drôle. Mais Luc Dionne a écrit hier sur sa page Facebook et sa mère lui a demandé, elle se demande encore si... Comment ça se fait qu'il a manqué d'amour durant son enfance pour écrire des choses aussi cruelles? Il veut rassurer sa mère, évidemment. Et veut aussi rappeler aux gens que c'est de la fiction, que le personnage de Yannick Dubois n'existe pas pour le vrai et qu'il est défendu par un comédien qui l'incarne de façon magistrale. Alors, évidemment, les gens y croient. Je pense que c'est ça l'ingrédient secret pour qu'une série comme celle-là fonctionne aussi bien. Moi, j'ai beaucoup aimé la... Mais c'est pas un dénouement total, par exemple.
C'est pas la fin de la saison qui est arrivée.
Ben non.
C'est une intrigue qui vous tenait en haleine depuis des semaines, qui s'est achevée hier.
Mais elle va se poursuivre, selon moi, là.
Oui.
C'est pas terminé,
non.
Là. Tu sais, ça ouvre la porte sur autre chose.
Oui.
Mais,
toujours. Ouais. Toujours, sinon l'émission serait finie, là, tu sais.
Mais c'est quand même hot, vraiment, là, pour une quotidienne à tous les soirs comme ça. Puis, première chose qu'on a faite en arrivant chez nous, là, hey, on soupe, là, puis on se dépêche, puis on va voir c'est quoi la finale de cette semaine. Fait que, tu sais, ça marche.
Ce qui me fascine là-dedans, c'est qu'on a eu Virginie, on a eu 30 vies, des quotidiennes, on en a eu, mais
ouais,
ça n'avait jamais cette résonance-là, puis ce niveau de qualité-là.
Te souviens-tu, hier, je t'ai dit, d'après moi, ce soir, on va battre le record de District 31, qui était 1,54 millions, 1,56, qui était battu mercredi. Hier, j'ai dit, d'après moi, on va battre ce record-là. 1,7 million de personnes hier, selon Richard Terrien du Soleil.
1,7 million.
Ouais. Hier, en direct, pas d'enregistrement, pas d'Internet, rien, là. Hier, en direct, devant les téléviseurs, il y avait 1,7 million de personnes.
Je pense qu'on voulait savoir si Miss Barbecue était toujours vivante.
Non, OK, moi, je fais attention. On reçoit des textos de gens très craintifs présentement.
Non.
Moi, je me fie sur vous deux pour pas brûler de peur.
J'ai rien brûlé pour l'instant. On n'a rien brûlé.
Moi, je fais juste soulever la question qu'on avait hier avant d'écouter l'émission.
Okay. Si vous êtes en retard sur l'émission, vous vous posez encore la question.
C'est ça.
Ben, je vous donnerai pas réponse. Non, écoute, c'est ça l'intrigue.
Merci.
Mais je comprends très bien. Les gens, vous pouvez rouvrir vos... ben là, vous le saurez.
Ouais, on a eu une coupe de « je viens de fermer la radio, je reviens dans 5 minutes juste au cas ».
On va pas faire ça, on va pas le dire. Mais je comprends les gens qui enregistrent en rafale toute la semaine puis qu'ils les écoutent genre le vendredi soir ou la fin de semaine. Là, fait que c'est correct, vous allez juste avoir plus de fun, ça va être un concentré.
Mais avoir les codes d'écoute, j'ai l'impression que cette semaine, les gens les écoutaient en direct.
Ouais.
Comme dans le bon vieux temps, là, s'asseoir à 19h00, pas l'enregistrer pendant 10 minutes pour sauter les pubs, là, vraiment le regarder live comme tout le monde.
Ouais.
Puis un rendez-vous télévisuel comme ça, il y en a plus.
Non.
Il y a tout le monde en parle qui fait 1 million à l'occasion. Il y a, comment ça s'appelait, Révolution, qui a eu des bonnes cotes d'écoute.
Il y a La Voix.
La Voix qui a
ça
des bonnes cotes d'écoute.
Mais encore là, c'est des grands... cette vie. Mais encore là, c'est des grands messes, là. T'sais, vraiment une quotidienne qui va tous les jours chercher 1,5 million de personnes. Ben là, tu sais, ça va rebaisser à 1,2, 1,3 peut-être. Ça reste phénoménal, là.
Mais tu sais, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui rejoint les sports là-dedans. Tu sais, comme Dan, toi, ça doit être difficile de regarder un match de baseball ou un match de hockey à retardement.
Je le fais pas.
Ben, parce que dans le fond, le score est vu partout, mm-hmm. puis tu ouvres ton téléphone, puis tu vas avoir le score du match qui vient de se terminer.
Exact.
J'ai l'impression que quand une série comme District 31 arrive à faire ça, c'est que le buzz est tellement grand que les gens vont se dévoiler, vont en parler autour, puis ça va être difficile de garder le punch.
Quand t'arrives à Machine à café, faut que tu me poses la question, avez-vous regardé l'épisode hier soir? Puis là, tu divises la foule en deux, t'as pas le choix.
Moi, disons qu'hier, j'ai pas eu le temps d'écouter District 31, trop occupé. Aujourd'hui, je colle malade, en bas de job. Oublie ça, c'est ça, je me fais vendre le
Dan, punch. Je me sens à l'écart. Tu dois être comme moi là-dessus?
Quoi?
Comme on l'a pas regardé?
Ah, ben non, mais là, ils aiment ça, eux autres. J'ai laissé aller. Je juge pas ça. Là.
Non, mais vous avez le droit de
Je suis convaincu que c'est bon s'il y a autant de monde qui regarde ça. Là.
Vous avez le droit de vous priver de votre bonheur, les gars.
Quand je vous vois triper, puis je me dis, j'ai trop de retard accumulé. Même si j'allais sur tout.tv. Hey, as-tu vu, il est arrivé tel affaire? Ouais, c'est parce que c'était l'an passé, ça. Reviens-en.
Ma blonde avait trois quarts de saison de retard. Trois quarts de saison, c'est beaucoup d'épisodes, là. Puis elle m'a rattrapé. Ça gâche un peu l'existence, là. Ça gâche ta vie, là. Mais elle l'a fait, c'est faisable.
Ça va-tu revenir?
De quoi ça?
Ben,
c'est pas fini.
Non,
c'est l'intrigue.
Que... Okay.
C'est comme dénoué. Mais non, c'est loin d'être fini. D'ailleurs, il faut que je dise une chose. J'ai dit que l'intrigue s'est dénouée parfaitement. Une partie de l'intrigue s'est dénouée parfaitement parce que c'est clairement pas terminé, là. Les gens qui ont écouté l'émission hier, je vends pas de punch, je vous le dis. Regardez, laissez vos radios allumées. Mais il y a encore du millage à faire sur cette histoire-là, c'est sûr.
Je vous trouve cute. J'aimerais ça être dans la gang, moi, avec, mais ça n'arrive pas.
Mais il y en a qui le reprennent après à partir de la deuxième saison, là. Mettons quand Nadine est morte, là.
Hein? Qu'est-ce que tu viens de dire là?
Hey, méga gros divulgacheur.
Ça, je l'ai vu. J'étais au courant.
Mais je pense que tu pourrais reprendre après ça, puis tu serais pas trop perdu.
OK. Ouais. On va peut-être l'essayer. L'autre nouvelle qui retient l'attention, ben, elle est dans notre cours aujourd'hui.
Ah!
C'est un commentaire.
J'ai pas entendu parler de rien.
Un rendez-vous, une entrevue.
J'ai oublié de mettre Mathieu. Je voulais commencer l'émission avec Mathieu.
C'est vrai, t'es allé voir Myriam et Luc avec ça tantôt.
Ouais, c'est la nouvelle mode, FM93, de porter la tuque en studio.
Catherine Dorion, qui était au micro de Sylvain Bouchard ce matin, à 8 h, est venue passer 15 minutes avec Sylvain. Puis à la fin de l'entretien, ils se sont dit à la semaine prochaine.
Oh mon doux.
Catherine Dorion est chroniqueuse, c'est inacceptable. On va mettre quelque chose au clair. Là. Catherine Dorion n'est pas chroniqueuse au FM 93. Une chroniqueuse ou un chroniqueur, on en a dans l'émission du retour. Ce sont des gens qui ont une expertise, qu'on reçoit à l'émission, à qui on donne un cachet et qui nous parlent de sujets donnés. Dans le cas de Catherine Dorion, elle n'est pas payée pour être ici. S'il y a une semaine qu'elle peut pas, c'est pas grave, on se dit à la semaine prochaine. Ses priorités, sa job, c'est d'être député. Puis la raison pour laquelle on l'a invité, puis qu'on a renouvelé une série d'invitations dès le départ, c'est que ça donne un bon clash gauche-droite entre Sylvain Bouchard. Puis Catherine est capable de débattre, Catherine est colorée. Ça fait pas l'affaire de tout le monde, puis je comprends qu'elle polarise énormément. Il y a des gens pour qui on dit le mot Catherine Dorion, juste son nom, c'est suffisant pour les faire complètement décrocher. Puis, on sait bien. Mais si on passe au-delà de ces préjugés-là, puis qu'on écoute Sylvain, qui a du respect pour Catherine, et Catherine qui a du respect pour Sylvain, sur des enjeux donnés, ça donne un maudit bon show de radio.
Ouais, j'ai l'impression. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi très négativement à cette annonce-là, en disant ça n'a pas de bon sens. Le FM 93 est rendu communiste. Je vous annonce que le Parti communiste n'a pas encore établi ses bureaux chez nous, là. c'est pas encore fait. Mais j'ai comme l'impression que, ben, d'habitude, quand on est fâché, on réagit plus aussi que quand on est content. Mais moi, j'ai comme l'impression que les auditeurs de Sylvain, là, les auditeurs de Sylvain qui l'écoutent à tous les matins, qui participent à l'émission, qui envoient des textos, qui appellent, tout ça. Moi, j'ai l'impression que les autres, ils font confiance à Sylvain pour parler avec Catherine Dorion sur une base là, plus ou moins régulière. Moi, en tout cas, je lui fais 100% confiance, aveuglément. J'ai aucun problème avec le fait que Catherine Dorion soit là le plus souvent possible. Écoute, parce que Sylvain a tellement des... s'exprime bien, puis il a ses idées à lui, puis c'est logique, ça se tient. Bon,
ben, il vient pas lancer des ballons de plage à Catherine Dorion.
Non, c'est ça.
C'est plutôt le contraire. Il va la challenger. Elle va répondre en le challengeant. Puis, on va avoir un débat d'idées, un choc d'idées qui va être intéressant comme auditeur.
Ouais. Puis l'autre affaire, c'est que il y a beaucoup de monde qui ont dit « Ah oui, ben change de poste! » Ben, c'est sûr, c'est plate, on veut pas que les gens changent de poste. Mais, Moi, j'ai comme un petit doute qu'il y a des gens qui disent qu'ils vont changer de poste puis
qu'ils
vont être aussi curieux que moi d'écouter la prochaine fois, voir comment ça sonne. Puis là, quand ils vont entendre Sylvain qui tient son bout puis Catherine Dorion qui tient son bout puis que ça donne un bon segment de radio, peut-être que je pense qu'ils vont revenir quand même. Écoute, ça, c'est juste moi qui pense ça. Ben, pas obligé
tu
de
choisis ton camp, puis quand ton équipe fait des points, c'est le fun. On devient partisan dans ce temps-là. Puis sans dire que ça va devenir un combat de boxe, 15 minutes de radio-là par semaine, c'est clair que je vais l'écouter toutes les semaines. Je vais vouloir être là à 8 heures avec la gang. Même si j'ai d'autres occupations à ce moment-là, je vais syntoniser le 93 pour écouter ça. La réaction qui a été la plus forte, c'est celle des autres partis politiques. Pierre Arcan, le chef par intérim du Parti libéral, Pascal Bérubé du Parti québécois. Ils ont tous réagi en nous envoyant un petit message sur Twitter. Hey, oui. By the way, nous autres aussi, si vous voulez une chronique, on est disponible. Juste pour vous autres, OK? Cette semaine, j'ai invité deux députés des trois partis qui nous ont interpellés. En passant, la CAQ n'est pas embarquée là-dedans. C'est pas vrai. La CAQ nous a pas interpellés là-dessus. Il y a que le Parti libéral et que le Parti québécois. Cette semaine, j'ai invité Geneviève Guilbeault, la Coalition Avenir Québec, pour parler du registre des armes à feu. Elle a décliné mon invitation. Puis, sais-tu quoi, c'est pas grave. Elle est allée dans le show du midi avec Myriam et Luc. Mm-hmm. Donc, la CAQ a eu 10-15 minutes pour jaser des changements qui ont été apportés
à l'antenne
au registre. Exact.
Ouais.
Ils ont eu la tribune. Hier, j'ai invité Lorraine Richard du Parti québécois.
Ah.
Elle a dit qu'on était trop fin à l'égard de la Coalition Avenir Québec, qu'on était en lune de miel.
Elle disait que les médias en général, pas le FM 93, mais elle disait que les médias en général donnent une free ride, comme on dit en bon français. Donc, ils sont en lune de miel avec la CAQ.
Exact.
C'est parfait, venez nous en parler, Madame Richard. On vous offre le micro.
Madame Richard n'était pas disponible. Ah. Donc, elle a décliné mon entrevue. Il n'y a que le Parti libéral qui, dans ce show-ci que vous écoutez cette semaine, que j'ai pas invité. Donc, des opportunités pour s'exprimer pour les différents partis politiques, on en envoie à toutes les semaines, puis on commence pas à faire l'inventaire. On fait l'inventaire en campagne électorale, parce qu'on est tenu, selon certaines règles, d'être vraiment là, plus by the book, puis donner autant de temps à l'un qu'à l'autre. Mais en temps normal, je vous dirais que en bout de ligne, là, on donne de la visibilité puis on donne du temps d'antenne à chacun des partis politiques. Donc, venez pas me dire que Catherine Dorion a un privilège exceptionnel par rapport à vous. Si vous voulez nous parler de quelque chose puis qu'on veut vous poser des questions, mais on vous envoie des invitations, vous nous envoyez des propositions également, puis c'est au jour le jour qu'on va le traiter, là. Donc ça, cet argument-là, je l'ai moins bien pris, disons.
Ben, dans le fond, ce que tu dis, c'est qu'on se fait plus souvent dire non que oui.
Ben,
quand on lance des invitations.
As-tu remarqué que c'est le Parti libéral et le PQ qui se sont levés en premier pour dire hey, nous autres aussi, on veut une chronique, mais pas la CAQ.
Ouais.
Ben, la CAQ, ils n'ont rien dit. Hein? Parce que nous autres, on essaye de parler dans l'émission du week-end, on essaye de parler à des ministres de la CAQ, des députés, depuis le mois d'octobre, depuis la sermentation, à date. Écoute, à moins que ma mémoire me fasse défaut, je n'ai pas reçu un.
Mais j'ai une question. T'avais-tu fini?
Oui.
OK. J'ai une question. Une fois que vous avez dit tout ça, particulièrement pour ton show, Paul Raff, qui est le week-end, est-ce que, parce qu'à longueur d'année, je suis un peu plus observateur de la scène politique que vous qui êtes vraiment dedans, puis dans la recherche, puis des entrevues, puis on le prend dessus, puis Eric qui commande tout ce qui se passe. À longueur d'année, j'ai l'impression que je vous entends dire « Ah, Dan, stresse-toi pas avec les autres, c'est tout le temps en cassette. » Pourquoi vous les voulez autant si c'est toujours la cassette? Pourquoi, particulièrement pour un show de week-end où, rendu le samedi puis le dimanche, tu peux faire bien différent, ça va être quoi le prestige d'avoir le ministre ou la ministre à 8h20 pour qu'ils sortent la cassette? Pourquoi on va pas ailleurs que d'essayer de recevoir les députés puis les ministres?
Ben, peut-être que là, les députés peuvent s'inspirer justement de Mme Dorion, parce que si le débat est intéressant avec elle, c'est peut-être parce que justement, la cassette n'est pas là.
Mm-hmm. Mais y a un temps,
on a droit à quelque chose de différent.
La question de Dan est bonne, mais la réponse, c'est que d'abord, on va aussi ailleurs. Là, c'est-à-dire, quand il y a des situations, des fois, on va parler à un politicien, d'autres fois, on va parler à un intervenant, comme hier, le gars de la maison Casa, qui est intervenant en dépendance. On n'a pas parlé à la ministre de la Santé.
On
a parlé à l'intervenant sur le plancher des vaches.
Ouais.
Fait qu'on va aussi ailleurs. Mais l'affaire, c'est que les ministres, c'est ceux qui sont responsables souvent de dossiers. C'est eux qui décident, c'est eux qui passent les lois. Ça fait que tu veux les confronter aussi des fois aux positions qui tiennent, aux positions qui ont tenues dans le passé, aux décisions qu'ils prennent, aux lois qui passent. Tu veux les confronter. Quand ils servent la cassette, après, c'est la job de Jeff, de Julie, quand t'as fait ses nouvelles. C'est ma job à moi comme animateur de m'assurer qu'ils me servent pas à cassette. Ou quand ils me le servent, ben, d'essayer d'aller chercher une vraie réponse à ma question.
Mais je comprends très bien ton explication, puis un empêche pas l'autre. Mais moi, comme auditeur, là, tu vas me dire, je suis un peu biaisé, je travaille en radio, ça fait 15 ans à temps plein. Mais si je suis dans mon auto, puis je veux entendre quelqu'un sur tel sujet, sur la nouvelle du jour en politique, je vais aimer bien mieux, puis même pas proche, là, bien mieux entendre Luc Ouellet que le ministre.
Parce que Luc Ouellet, il est dans l'analyse.
Mais pas à peu près.
Ouais.
Si je suis dans mon auto, moi, comme auditeur, j'aime bien mieux entendre Luc Ouellet que le ministre qui va faire l'annonce ou qui va...
Ça dépend de l'approche. Prenons les deux exemples que je t'ai nommés cette semaine. Okay? Geneviève Guilbeault a réussi à voir Poli se souvient, puis la Fédération des chasseurs, avec le SPVM, tous côte à côté côte. D'elle, côte à côte, pour annoncer des modifications à un registre qui fait pas l'affaire d'un paquet de monde.
Mm-hmm.
Comment vous avez réussi ça? Est-ce que vous pensez vraiment que la grogne va s'estomper à cause de ça? On a un paquet de questions pour Geneviève Guilbeault à ce moment-là. Prends Lorraine Richard du PQ. Si je l'ai invitée, c'est parce que justement, elle m'a pas sorti la cassette. Elle parlait des médias puis de notre attitude à l'égard du gouvernement actuel. J'ai dit, ah ouais? Vous pensez ça, Mme Richard? Parfait. Venez nous expliquer ça. On va pouvoir débattre un peu. On va pouvoir vous expliquer pourquoi on agit de telle façon. Puis je vais pouvoir écouter votre point de vue.
L'affaire, c'est qu'on le fait aussi, Luc Ouellet, tu sais, dans le fond.
Ça, je dis, un empêche pas l'autre, là.
C'est ça.
Ouais.
Tu sais, quand il y a un politicien, par exemple, qui fait une niaiserie, ou ben, je sais pas, moi, les 100 jours de François Legault, la rentrée parlementaire, ces situations-là, ben, on se dit, parfait, c'est le temps de faire le point, on va chercher un bon analyste. C'est ce qu'Éric fait aussi, dans le fond, quand il part dans ses laïus, là, tu sais, il fait de l'analyse. Mais après, moi, je trouve ça intéressant, le gars qui est capable de faire de l'analyse, qui confronte la personne responsable, la personne qui est censée rendre des comptes. Ça, c'est le politicien, bien souvent.
Ah oui, puis les cassettes, chaque parti en a un qui est cassette professionnelle. Le top cassette, chaque parti en a un. Au Parti libéral, lorsque c'était le gouvernement, c'était Jean-Marc Fournier qu'on n'invitait pas en entrevue parce qu'il était capable de nous déblatérer des réponses puis d'aligner des mots sans jamais rien dire. Là, maintenant, on disait « OK, c'est beau, là, Jean-Marc Fournier. Là, on va avoir les scrums à télé, les journalistes qui sont sur place, mais on l'invitera pas, on va se faire bourrer puis on n'apprendra absolument rien. » Mais quand un politicien sort de la cassette, justement, puis est capable de défendre des idées, pas juste sa plateforme, parce que Catherine Dorion, elle vient pas faire une infopub pour QS à toutes les semaines avec Sylvain. Elle va se faire challenger sur des idées en général, sur des sujets de société. Mais ça va dépasser le cadre de son parti.
Mais sans faire une infopub, Jeff, ça va donner de la pub au parti.
Ben oui, c'est sûr.
C'est sûr. C'est
une grosse antenne, le 93.
Oh oui, Pache-Cochet,
juste un instant, là. Tu penses-tu vraiment que Catherine Dorion, en faisant des segments avec Sylvain comme ça, à gauche, à droite, va convaincre des auditeurs de Sylvain de voter pour Québec solidaire?
Assurément.
Hein?
Ah oui. Tu penses qu'elle va convertir du monde?
Ben là, je pense que c'est dans le champ.
Non, mais en fait, ça sera pas son mandat.
Non,
mais elle va faire réfléchir des gens.
Des auditeurs de Sylvain.
Ah, peu importe.
Quand Sylvain la challenge,
oui.
Ils vont se dire, ah, finalement, Sylvain a tort, Catherine a raison.
Non,
je pourrais voter pour Catherine.
Non, ils diront pas ça de façon aussi claire. Mais ils vont, à tout le moins, découvrir une fille. Tu vas me dire, ah, c'est déjà fait, Dan. On le sait tous qu'elle est en t-shirt puis en tuque à l'Assemblée nationale puis elle a pas peur de ses idées. Ça, c'est ce que les gens ont entendu parler. Ils l'ont pas entendu tant que ça parler en onde. Là, ils vont avoir cette chance-là. Elle va toujours être là chaque semaine. Ils vont pouvoir se faire une tête sur ce qu'elle pense. Je suis pas en train de dire qu'ils vont changer d'idée puis ils vont se mettre à voter pour elle. Mais c'est une méchante pub. Jeff a utilisé infopub, mais c'est une méchante pub. Il y a pas de doute pour moi.
Moi, je suis loin d'être convaincu de ça. Avec un gars comme Sylvain dans Bergerie, là, je suis loin d'être convaincu. C'est sûr que c'est de la visibilité, ça, je suis d'accord avec toi.
Peu importe le débat d'idées, peu importe que les auditeurs de Sylvain pensent comme Sylvain, le fait qu'elle soit en onde, ça devient une... Puis là, quand
c'est une vitrine,
là,
c'est une vitrine, t'as raison.
Une énorme vitrine.
T'as raison que c'est une vitrine, mais moi, je suis convaincu que ça fera pas changer d'idée les auditeurs de Sylvain. Qu'il y en a qui soient d'emblée d'accord avec Québec solidaire, quoique je pense qu'ils sont peu nombreux, ou qui soient d'emblée plutôt d'accord avec les idées de Sylvain. Moi, je suis loin de penser que ça peut changer quoi que ce soit.
Ben, moi, je pense que ça peut avoir une certaine influence.
Oui.
Ben oui, c'est sûr que à force d'écouter quelqu'un puis de voir ses points de vue, il y a des fois des gens, a priori, qu'on n'apprécie pas ou qui nous irritent. Puis à force de les entendre, des fois, tu dis, ah ouais, t'as l'affaire, ça peut me rejoindre, tout ça. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose qu'elle puisse rallier des gens? Je ne sais pas.
Mais non, c'est bon. C'est vraiment c'est bon pour tout le monde, j'imagine. Si on en est venu à cette entente-là, moi, je ne remets pas en doute la.
Mais, tu sais, moi, ce que je trouve pour les autres partis, ce que ça remet en question, c'est d'avoir, à travers leurs troupes, des gens qui ont cette capacité-là de débattre et d'être intéressants. Je ne veux pas dire que les gens qui sont pour les libéraux, la CAQ ou peu importe, le Parti québécois, sont inintéressants. Mais tu sais, le charisme que ça dégage, tout ça.
Ça, c'est majeur, Julie.
Dans les 125 à l'Assemblée, il n'y en a pas tant que ça.
Hey, je me souviens d'un débat.
C'est une bébite à part, Mme Dorion, quand même. Là,
dans pendant la campagne électorale, il y a eu un débat à un moment donné dans l'émission du midi ici entre des candidats régionaux. Moi, j'étais là, puis je t'annonce que, sans nommer de nom, là, mais il y a vraiment des candidats que tu disais, ce candidat-là, peu importe le parti, lui ou elle, c'est un atout important pour ce genre d'exercice-là. Je pense à Sébastien Proulx, par exemple. C'est tout un débatteur. Tu sais, c'est dans ce contexte-là, il est important pour le parti. Il y en a d'autres, tu te dis, oh, palaille, ça manquait de force fraîche. Là. Mm-hmm.
Mais sur le terrain, ils peuvent être excellents.
Peut-être.
En commission, ils peuvent être exceptionnels.
Voilà.
Mais quand vient le temps de parler devant un micro, c'est autre chose. Ils peuvent pas être des triples menaces comme au basket que tu peux faire n'importe quoi et que tu es bon dans tout. Chacun a ses spécialités. Puis il y en a d'autres qui se présentent un peu mieux en public. Donc.
Il n'y a pas à dire. Il y a une affaire aussi, là, qu'on soit d'accord ou pas avec cette idée-là d'inviter Catherine Dorion. Honnêtement, je pense que ça laisse personne indifférent aujourd'hui. Puis ça, on est obligé de l'admettre, là. Le pari, c'est qu'il y a fort à parier que comme ça laisse personne indifférent, ben la prochaine fois, on va tendre l'oreille voir qu'est-ce que ça donne. Puis l'autre affaire, il faut le préciser, Jeff, là, c'est pas une entente béton avec un nombre de semaines fixes, un salaire. Là, je veux dire, Catherine Dorion n'est pas payée pour faire ça. Puis si à un moment donné, Sylvain, il est tanné, puis il revient plus. Là, tu sais, aussi, faut pas non plus penser que Catherine Dorion est pas une employée de
Cogeco.
Non,
c'est ça. C'est pas ma collègue. Là.
Oh no.
C'est pas ma collègue. Donc, le podcast est en ligne si vous avez raté le segment. Puis ça fait énormément réagir aujourd'hui. Dan, t'es allé arbitrer hier soir. Tu nous en as parlé un peu.
Oui, tournoi midget de Beauport.
Tournoi prestigieux.
Je vais être là demain aussi.
Oui. Ouais. Ça a bien été?
Oui.
Il n'y a pas eu de scénario de film?
Non. Mais sais-tu quoi? Depuis que j'arbitre, c'est ma plus grande surprise. Quand j'ai suivi mes cours d'arbitre au mois de novembre, les gens m'ont dit « Hey, tu es malade, tu as le goût d'aller te faire chialer après dans les arénas? » J'ai dit « Non, je veux juste redonner au hockey mineur parce que j'ai de bons souvenirs de mon hockey mineur quand j'étais jeune. Puis j'apprends chaque match. J'ai appris encore des nouvelles choses hier. Mais tu sais quoi? » Ça chiale pas mal moins que les gens pensent. Mais de qui on parle quand ça chiale?
Ceux qui chialent.
Exact. C'est quoi le pourcentage des parents, des coachs ou des joueurs qui chialent après les arbitres dans tous les matchs de hockey mineur présentés dans la province chaque jour? C'est peut-être 2,3%, mais c'est toujours eux de qui on parle à LCN ou dans les médias.
Est-ce qu'il y a
ça m'agace.
Une autodiscipline dans les gradins? Un parent qui est plus turbulent ou qui est plus bruyant.
J'en ai pas entendu un, Jeff.
Non, OK. Mais jusqu'à maintenant, là, dans tout ton hiver.
J'ai pas entendu un parent plus turbulent.
OK, parce qu'ils savent que tu vas y planter en
main. Pas en tout, ils savent même pas que je suis là. Ils savent pas que je suis sur la glace. Les parents dans les estrades, j'ai pas mon nom dans le dos, là. Ils ont aucune idée qui va arbitrer les matchs.
Oui, puis je pense que pendant le match, c'est une chose. Les parents sont plus disciplinés, puis ils sont plus avisés aussi. Il y a des affiches quand tu entres dans les arénas ou les centres de sport maintenant, tu sais, vraiment pour rappeler aux parents que c'est un jeu, puis l'aspect compétitif, à un moment donné, c'est assez.
Des affiches pour les 2,3% quand même.
Oui, mais moi, j'ai l'impression aussi que c'est ça se passe à l'extérieur de la glace. J'ai l'impression que, peut-être pas envers les arbitres, mais envers les coachs, puis tout ça, l'espèce de irritabilité parfois des parents.
Il y a bien plus de sensibilité qu'avant.
Oui.
Mais, tu sais, le souvenir dans mon hockey mineur, autant que je te dis qu'il est bon, Jeff, est-ce que tu penses que je me souviens de la bonne mère de famille ou du bon père de famille qui était toujours assidu, qui était toujours calme dans les estrades, ou je me souviens du père de mon chum qui lançait une poubelle sa patinoire une fois qu'il avait pris 3 ou 4 bières?
Les exceptions marquent pas mal plus.
Mais la saison janvier-février, Jeff, et Rick Lavigne et moi, hier, dans l'avant-match, on était entièrement d'accord sur ce point-là. La saison janvier-février pour le hockey mineur, c'est les deux plus beaux mois de l'année. Parce qu'il y en a qui disent « Ah, Dan, tu négliges la Coupe Dodge à la fin du championnat provincial. Mon fils l'a gagné il y a 2 ans, c'est hot. » Moi, je comprends. Mais c'est une minorité de jeunes qui participent à la Coupe Dodge. Mm-hmm. Tous les jeunes de hockey mineur, gars et filles, entraîneurs et parents, vive au moins deux tournois par année, des fois trois, des fois quatre, puis des fois cinq, six, sept s'ils font du hockey de printemps. Les tournois de hockey mineur, janvier, février, il n'y a pas de doute pour moi, c'est la plus belle saison de l'année.
Souvenir impérissable. Hein?
Exact.
Il y a un dossier qui va retenir l'attention plus tard cet après-midi. C'est le ministère de l'Éducation qui va rendre public le rapport d'enquête sur le séminaire des pères maristes. On attend ça pour 16h cet après-midi. Dans ce rapport-là, on va avoir de façon détaillée le fil des événements. Il y a des témoignages là-dedans. Par contre, évidemment, ça va être caviardé parce qu'on veut protéger l'identité des acteurs de cette crise-là. Ça parle de ce qui s'est passé au conseil d'administration. Il y a les noms des élèves, des parents, des administrateurs. Ils vont être biffés. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'on va avoir entre les mains, nous, comme citoyens puis comme journalistes, de voir à quel point on va en apprendre sur ce qui s'est passé. C'est vraiment pour des raisons de protection de la vie personnelle, même que le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, disait « J'aurais pu décider de pas en divulguer plus que ça. Mm-hmm. Par souci de transparence, je vais en rendre de larges extraits publics cet après-midi. » Donc, il va plus loin que ses obligations légales, mais vers 16h cet après-midi, on devrait avoir un document là, qui nous arrive entre les mains. Il y avait une entrevue, justement, de M. Roberge dans Le Soleil ce matin. C'est Patricia Cloutier qui s'est entretenue avec lui. Et lui entend serrer la vis aux écoles privées du Québec en lien avec les sextos en général, parce que dans le rapport, il y a des recommandations. Oui. Il y en a deux principales. La première, c'est formation puis activité de prévention. Sur l'échange des textos, on veut rencontrer les jeunes sur le terrain, faire des conférences, leur expliquer, ben, regardez, ce qui est arrivé au séminaire des pères maristes, vous n'êtes pas à l'abri de ça. Faut faire attention à ce que vous envoyez à qui, même si la confiance est là, puis que vous pensez qu'il arrivera rien avec ces photos-là. Sachez qu'il y a un risque. Ouais. Donc, on veut vraiment prendre le temps d'expliquer ça. D'ailleurs, le ministre a dégagé des effectifs au ministère pour préparer ces séances d'information-là. Et l'autre recommandation du rapport, c'est de créer une instance neutre pour traiter les plaintes des élèves. Donc là, ce serait encore de la bureaucratie. Il y a le protecteur de l'élève qui existe déjà. On veut étendre le rôle du protecteur de l'élève aux écoles privées. Donc ça, ce serait une des avenues à envisager là, pour les prochains mois en lien avec ce qui s'est passé au Père Mariste.
Oui, parce que tout est là, en fait. Hein, c'est une école privée. Puis les écoles privées, ben, le ministre de l'Éducation n'a pas les mêmes pouvoirs, entre guillemets, de regarder ce qui se passe dans l'organisation, parce que des activités de sensibilisation et de prévention dans les écoles secondaires publiques, ben il y en a, là. Là, c'est juste qu'il va arriver puis il va les imposer. Mais en fait, ça va devenir une norme aussi pour les écoles privées.
Ça va être du clé en main. On va faire comme au public, ouais, du côté des écoles privées. Puis là, ben, actuellement, le ministre, par rapport aux écoles privées, il a les mains liées dans plusieurs occasions. Il a, ouais, des gros, gros pouvoirs. Il peut retirer le financement. Il peut enlever le permis d'une école carrément. Mais
son pouvoir, actions, c'est ça, à l'intérieur de l'école, ouais, dans les opérations courantes.
Là, ils ne peuvent pas vraiment le faire. Ouais. Donc, la loi sur l'enseignement privé pourrait être modifiée par la CAQ au cours des prochains mois. Et ben, il y a les cours d'éducation à la sexualité qui sont désormais obligatoires. Ouais. On va intégrer la question des sextos dans ces cours-là.
Aussi. Je voulais dire quand même, le président américain Donald Trump qui s'adresse aux médias actuellement, le shutdown, et, ben, en fait, c'est qu'on met fin partiellement au shutdown. On va rouvrir les activités. Donc, les fonctionnaires vont retrouver leur emploi jusqu'au 15 février prochain. Ce sont les dépêches là, qui arrivent jusqu'à maintenant. Trois semaines encore, peut-être essayer de dénouer l'impasse. On dit qu'il n'y a toujours pas d'entente ou d'argent neuf qui ont été négociés pour la construction du mur entre les États-Unis et le Mexique.
On avait entamé le deuxième mois plus tôt cette semaine. Ouais. Donc, au-delà des 30 jours, c'est le plus long shutdown de l'histoire du gouvernement américain. Puis aujourd'hui, on avait des gros problèmes dans les aéroports. Oui. À New York, à LaGuardia, là, il y a eu des vols qui ont été en retard, mais solides, oui, parce qu'on manque d'effectifs sur le terrain.
Oui, des contrôleurs aériens qui, normalement, sont payés par le gouvernement américain. Alors, oui, c'est les incidences, ce ne se feront plus sentir que dans le portefeuille des fonctionnaires. Ça s'en vient ailleurs aussi, là, quand on commence à avoir des retards avec la circulation aérienne. Là, ça implique un petit peu plus de sous.
Oui, c'est le grand public qui écoute. Puis, il y a des républicains dans le grand public, malgré, ouais, tout. Donc, Donald Trump est à la recherche de solutions. Il est en train de faire son point de presse, ouais, présentement, donc on en saura plus dans les prochaine minute. 14h30, on fait une première pause dans le retour. On vient, ce sera pas long.
Le retour d'Éric Duhaime.